Europe 1.
16h-18h,
historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Bienvenue dans l'univers feutré du cabaret. Nous sommes dans le Paris d'avant-guerre, rue Sainte-Anne, à la vie parisienne, un repère d'aristocrates et d'hommes d'affaires, d'artistes et de demi-mondaines. Sa fondatrice, Suzy Solidor. Elle est sur scène, regardée dans sa robe fourreau qui épouse parfaitement sa silhouette et met en valeur ses formes généreuses. Elle a tous les regards braqués sur elle, féminine jusqu'au bout des ongles. Pas vraiment. Ses cheveux sont coupés au carré et une frange tombe sur son visage anguleux. Elle doit à son physique androgyne d'être l'icône de la garçonne des années folles. Nonchalamment appuyée sur un piano sur lequel on a jeté un châle, elle se met à chanter d'une voix grave et enjôleuse.
Ouvre les yeux, réveille-toi. Ouvre l'oreille, ouvre ta porte. C'est l'amour qui sonne et c'est moi qui te l'apporte.
Sur les murs de la salle, à l'ambiance tamisée, des dizaines de portraits sont accrochés au mur et Suzy est entourée d'elle-même. Suzy Solidor pourrait s'appeler Dorian Gray. Tous les artistes ont voulu figer son visage pour l'éternité. C'est plus de 200 artistes au fil des ans qui s'y sont essayés, faisant d'elle la femme la plus portraiturée au monde. « Je suis plus à peindre qu'à blâmer », s'amusait-elle à répéter. La première chose que Suzanne Marion voit lorsqu'elle ouvre les yeux à Saint-Servan, aujourd'hui un quartier de Saint-Malo, le 18 décembre 1900, c'est la mer. Une image qu'elle emportera partout avec elle. De l'eau salée coule dans ses veines. Du côté de son père biologique, un avocat chez qui sa mère est gouvernante, elle descend quand même du célèbre corsaire Surcouf. Quant à sa mère, Louise Marion, pour échapper à la condition de fille mère, l'une des plus mal perçues de son temps, elle épouse un certain Eugène Prudent Rocher, qui reconnaît la petite Suzanne, âgée de 7 ans. La famille s'installe près de la tour Solidor. Tiens donc, ce nom sonne drôlement bien. Suzanne raconte elle-même qu'elle décroche son permis de conduire à 14 ans. Elle est sûrement l'une des plus jeunes femmes en France à conduire une voiture et par servir sur les fronts de la Grande Guerre. « La journée, je conduisais le général et la nuit, je conduisais les ambulances », expliquera-t-elle. Et tandis qu'elle assiste aux horreurs de 14-18, elle s'évade en secret, rêvant à son vœu le plus cher, devenir mannequin. L'armistice signé, Suzanne Rocher s'installe à Paris. Elle rencontre l'une des femmes les plus mondaines de la capitale, la célèbre antiquaire Yvonne de Brémond-Dars, qui se charge de son éducation, devenant son Pygmalion. Car elle et Suzanne s'aiment et ne s'en cachent pas. Yvonne lui fait donner des cours de chant et la propulse sur le devant de la scène en la présentant au Gotha parisien. Suzanne réalise son rêve et devient mannequin de maillot de bain. Et on la voit sur les planches de Deauville dans des pièces qui imitent les algues ou le filet de pêche. Elle attire les regards des artistes, à commencer par celui du Néerlandais Van Dongen, qui en fait son modèle. Yvonne l'élève au rang d'œuvre d'art et commande des portraits de sa protégée. C'est elle qui m'a sculpté, avouera Suzy. C'est ensuite une ribambelle d'artistes qui viennent s'accrocher à elle comme autant de moules à leur rocher. Impossible de rester de marbre face à son charisme hypnotique qui mélange douceur et rudesse. Ils s'y sont tous essayés. Picabia, Kiesling, Domergue, Marie Laurencin, Dufy, Fujita ou Tamara de Lempicka. La voici qui apparaît sous les traits d'une jeune fille sage, d'une amazone, d'une séductrice, puis en masque mortuaire chez Francis Bacon. La mer n'est jamais loin, aussi la peint-on à la proue d'un bateau, en sirène ou en capitaine flibustier. La relation avec Yvonne Brémond-Dars prend fin au bout de 11 ans. C'est ensuite avec l'aviateur Jean Mermoz que Suzanne file le parfait amour. C'est lui qui fait réaliser un portrait d'elle par l'affichiste Paul Collin. Et ce Paul Collin, comme d'autres de ses amis artistes, conseille à Suzanne de se lancer dans la chanson. Suzy prend alors le pseudo de Solidor, en référence à la tour de son enfance, et elle fait ses débuts à Deauville, puis dans les salles parisiennes. Son répertoire se compose essentiellement de chansons de marins, d'où son surnom de Madone des matelots. Puis plus tard, d'amiral.
Je l'ai rencontré vers le nord, un soir d'escale sur un port, dans un bastringue abominable. L'air sentait la sueur et l'alcool. Il ne portait pas de faux col, mais un douteux foulard de soie. En entrant, je n'ai vu que lui.
En 1933, Suzy Solidor ouvre au 12 rue Sainte-Anne la vie parisienne. L'un des premiers cabarets lesbiens de Paris qui devient un haut lieu de la capitale où se produiront Édith Piaf, Charles Trenet, Eddie Constantine ou Colette Mars. Lorsque Suzy s'appuie au piano et tire d'elle une voix qui sort des zones les plus intimes de l'être, lorsqu'elle dompte cet élément qui donne le trac comme les vagues donnent le mal de mer, je m'incline. Ce sont les mots de Jean Cocteau, qui lui aussi a réalisé un portrait qui entoure la star dans son écrin de velours. De sa voix grave et sensuelle, une voix qui part du sexe pour Cocteau, Suzy Solidor chante au masculin. Le regard droit dans celui de ses clients, Joseph Kessel ou encore Colette, elle interprète des poèmes d'Edmond Haraucourt, Ouvre et Obsession.
Chaque femme, je la veux, des talons jusqu'aux cheveux, j'emprisonne dans mes voeux.
Son image de garçonne lui colle à la peau. En 1936, Suzy incarne Annika, une chanteuse opiumane, dans l'adaptation du roman sulfureux de Victor Marguerite. Puis la seconde guerre éclate et bientôt, une partie de la clientèle de son cabaret porte l'uniforme allemand. Sous l'occupation, la vie parisienne est très fréquentée par les officiers. Pour le plus grand plaisir des Allemands, Suzy Solidor s'approprie en 1942 l'une de leurs chansons préférées, Lili Marlène, popularisé par Marlène Dietrich.
Devant la caserne, quand le jour s'enfuit, la vieille lanterne soudain s'allume et lui, c'est dans ce coin-là que le soir, on s'attendait, rempli d'espoir, tous deux, Lili Marlène.
Vous l'entendez, la version française est chantée sur un rythme de marche, ce qui donne une ambiance très militariste à la chanson. Les Français l'entendent en boucle à la radio pendant que les soldats de la Wehrmacht se balancent sur leur fauteuil dans le cabaret de Suzy. Parce qu'elle n'a pas fermé son cabaret sous l'occupation, Suzy Solidor est traduite devant la commission d'épuration des milieux artistiques à la Libération. Elle reçoit un blâme et une interdiction d'exercer pendant 5 ans. Contrainte de céder la direction de son cabaret, elle s'envole vers les États-Unis. La sentence est-elle justifiée ? Rien n'est moins sûr, car certaines sources révèlent son rôle d'agent double. Suzy aurait en effet profité de l'ivresse de ses clients allemands pour leur soutirer des informations et les transmettre à la résistance. De retour à Paris, Suzy Solidor ouvre en février 1954 le cabaret chez Suzy Solidor rue Balzac, à 2 pas des Champs-Élysées. Mais l'ambiance est moins à la fête. Comme beaucoup de stars, et même si les plus grands artistes ont voulu la figer l'espace d'un instant, Suzy est une étoile filante. Elle a fait son succès sur son physique, et la cinquantaine passée, celui-ci a bien changé. Elle prend du poids, ses épaules de nageuse, comme le reste de son corps, subissent les lois de la pesanteur. C'est un comble pour la femme la plus peinte au monde que de ne plus supporter son reflet. Pour l'oublier, elle enchaîne les verres de whisky. De Paris, Suzy Solidor se lasse. À bientôt 60 ans, elle s'installe dans le cœur historique de Cagnes-sur-Mer, à l'abri du rythme trépidant de la Côte d'Azur. Perchée dans les hauteurs des Alpes-Maritimes, la chanteuse ouvre un dernier cabaret, un salon de thé ainsi qu'un magasin d'antiquités. Elle meurt en mars 1983, après avoir légué au château-musée Grimaldi de Cagnes 40 de ses plus beaux portraits. Suzy Solidor, qui a figé son image à jamais, ne sera donc jamais oublié.
Un refrain d'amour chantait sa rengaine au coin d'un faubourg où la foule aussi chantait.